Et je vous invite à la lecture des 16 premiers versets de Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, versets 1 à 16, un thème qui finalement est pleine d'actualité encore. Matthieu 5, verset 1er. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est donc un passage, un enseignement de Jésus qui est bien connu, qui est souvent la base de pas mal de prédications, généralement soulignant le rôle de conservation de la sel, du sel. Donc le sel employé pour conserver, préserver l'alimentation et donc l'importance d'être du sel dans le monde à partir de cela. Mais cette semaine, nous avons pu constater une autre utilisation, n'est-ce pas, du sel. Alors, peu surprenant qu'on ait de quoi faire quand on parle du sel. J'ai regardé cette semaine, apparemment, on a repéré un peu plus de 14 000 usages pour le sel. Donc, finalement, se limiter que à l'effet de conservation, c'est peu par rapport à tout ce que le sel peut faire. Mais donc, cette semaine, nous avons pu constater qu'entre autres, le sel est très utile pour combattre contre le gel, contre la neige, pour nous permettre de continuer à circuler, continuer à faire ce que nous avons à faire lorsque nous sommes en plein hiver. Alors c'est peut-être intéressant dans ce contexte justement de noter que les jeudis soirs, on est en train de parcourir le parcours Alpha et ceux qui ont suivi ce parcours, vous savez sans doute qu'un des auteurs préférés de celui qui a écrit ce parcours, c'est l'auteur anglais C.S. Lewis, qui entre autres a écrit les livres de l'histoire du monde de Narnia. Et dans le premier livre qu'il avait écrit dans cette série, qui s'appelle « Le lion, la sorcière blanche et l'armoire », Lewis écrit une histoire pour expliquer finalement aux enfants le plan de Dieu. Il y avait deux grands amis littéraires, donc professeurs d'université, qui ont vécu aux mêmes époques, qui étaient tous les deux de grands écrivains. Il y avait C.S. Lewis d'un côté et Tolkien de l'autre. C.S. Lewis qui a écrit Le Monde de Narnia, Tolkien qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. Et Tolkien, finalement, se moquait un petit peu de C.S. Lewis parce qu'il a dit bah, « Ton histoire, c'est trop évident. » Lui, qui était grand littéraire, voulait quelque chose de plus grandiose, de plus inventé dans son propre cerveau. Lewis, à ce moment-là, avait comme but d'écrire une histoire qui permettrait à des enfants de saisir ce que Jésus avait fait à travers une forme de littérature qui leur serait habituelle, qui leur serait facile à comprendre. Et donc, il avait expliqué aux enfants le plan de Dieu, le plan du salut, avec un lion comme caractère central, le lion qui se sacrifie à la place des enfants qui sont au cœur de l'histoire, avant de revenir à la vie. Donc lui, il avait cherché vraiment à ce que point par point, ça reprend l'histoire biblique. Et donc, dans ce livre, dans cette histoire qu'il raconte, à un moment donné, donc, le lion qui avait tout lancé est parti, et dans son absence, ce monde magique est passé sous le contrôle de la sorcière blanche. Et Lewis utilise comme image du monde dans l'absence du lion, un monde qui est retenu dans l'hiver. Finalement, il dit c'est toujours l'hiver, mais jamais Noël, jamais de fête, jamais de cadeau, que l'hiver et le printemps n'arrivera qu'avec le retour du lion. Donc là aussi, on voit facilement les liens qui tissaient avec l'histoire du monde présentée dans la Bible. Mais donc, c'est clair qu'un monde qui est toujours hivernal, un monde qui est dominé par le froid, qui est dominé par le gel, où il est difficile d'avancer à cause des conditions, a besoin du sel pour agir contre cette puissance du gel et du froid. Souvent, ben on a pu voir déjà cette semaine, quand les ponts et chaussées ont dit que, vu les conditions, il était impossible de mettre du sel sur la route, on a vu à quel point c'était difficile d'avancer, difficile de circuler, et la différence que ça faisait le lendemain lorsqu'ils ont dit « Maintenant, les conditions ont changé, nous pouvons à nouveau mettre du sel, et donc nous avons pu circuler. » Il est important donc d'avoir du sel dans un monde hivernal, du sel qui va agir donc contre la puissance sur le plan physique, pratique, mais également sur le plan spirituel. Puisque donc, si, comme Lewis, on peut imaginer le pouvoir de notre ennemi comme une force d'hiver, il y a effectivement des gens qui sont retenus dans une forme d'air glaciaire. Il y a des vérités qui sont retenues comme prises dans la glace. Et l'apôtre Paul disait qu'un des problèmes pour l'être humain, c'est que la vérité de Dieu a été retenue injustement pour empêcher aux gens de venir au Seigneur, et que Dieu doit agir contre les effets qui retiennent cette vérité prisonnière. Et donc, face à une telle situation, face à un monde hivernal pris dans la glace, Jésus nous dit « Vous êtes le sel de la terre ». Avec certes tous les autres aspects de ce que le sel peut faire, mais entre autres aussi avec son rôle d'apporter cette liberté qu'apporte la vérité de Dieu, la vérité de sa parole, cette liberté qu'on ne peut trouver finalement qu'en Jésus. Jésus qui a dit à celui que le Fils libère sera réellement libre. Notre témoignage donc en tant que chrétien est la vérité de la parole de Dieu que le Seigneur nous a confiée peuvent faire fondre n'importe quel objet, peut faire fondre même un cœur glacé. En Colossiens chapitre 4 verset 6, l'apôtre Paul nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Avec l'aide de l'Esprit, nos paroles, lorsque nos paroles reflètent le caractère et la parole de Dieu, peuvent faire fondre ces cœurs glacés, apportant la liberté que le Seigneur désire donner, plutôt qu'une vérité qui serait retenue comme saisie dans la glace. L'autre élément qui peut faire fondre le gel, c'est bien évidemment le soleil. Et le Seigneur a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Mais même au-delà de l'effet du soleil sur le gel, en faisant fondre le gel, déjà la lumière du soleil en soi nous fait du bien en plein hiver. C'est beaucoup plus agréable lorsqu'on ressent le soleil dans ce temps d'hiver, et c'est même médicalement reconnu que la lumière du soleil peut jouer un rôle sur notre état d'esprit. Nos corps en ont besoin, notre cerveau en a besoin. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, dans les pays d'Europe du Nord, on est obligé de prendre des compléments de vitamine D. Parce que il nous manque le soleil pour le produire naturellement pendant l'hiver. La lumière du soleil nous fait du bien. Je lisais il y a quelque temps aussi un article qui disait à quel point c'était important de laisser le soleil pénétrer dans nos maisons, surtout en hiver, puisque ils ont dit même à travers les fenêtres, la lumière tue les microbes dans l'air de nos habitations, et donc rien qu'avec la lumière du soleil, on a une vie beaucoup plus saine. En plus, cette lumière nous réchauffe, nous aide à trouver notre chemin. Cette lumière du soleil, surtout en plein hiver, nous rend notre chemin aussi beaucoup plus simple, nous aide à trouver notre chemin, surtout à travers le gel. Cette semaine, si vous êtes sortis, il y a une grande différence quand on s'est aventuré dehors en temps ensoleillé que la nuit. La nuit, il fallait être très judicieux là où on mettait les pieds parce que c'était difficile de voir où se trouvait le gel. Mais lorsque on sort en plein jour, là c'est plus simple, parce que la lumière se reflète sur le gel, et de loin on se dit, je ne vais pas mettre le pied là, parce qu'on sait quel sera le résultat. La lumière nous permet donc d'avancer, nous permet de voir où on veut aller, où on doit aller, nous aide donc à aller au bon port. Jésus nous dit que nous sommes appelés à être la lumière dans ce monde. Lumière pour aider les gens, eux aussi, à voir le chemin qu'ils ont besoin de prendre, leur montrer vers où aller, les aider à ne pas tomber, tout comme la lumière nous aide à ne pas tomber sur la glace. D'ailleurs, la Bible nous dit que ce chemin que nous avons besoin d'emprunter, c'est ce chemin qui mène vers le Père. Et Jésus-Christ a dit, je suis le chemin. Donc notre rôle en tant que lumière qui éclaire le chemin, qui conduit jusqu'au Père, c'est notre rôle de représenter Jésus, d'apporter Jésus dans le monde où nous nous trouvons, pour que d'autres encore puissent venir jusqu'à lui. Cela veut dire, en réalité, que nous sommes appelés à refléter la lumière du Seigneur. Nous ne sommes pas appelés à être source de lumière nous-mêmes, puits de lumière. Nous sommes censés simplement refléter la lumière du Seigneur. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul pouvait dire, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Même l'apôtre Paul, il pouvait dire, mon objectif n'est pas de me mettre en avant. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Il fait après briller cette lumière sur nous, qui doit être reflétée par nous, et cela apporte donc la lumière de Dieu dans ce monde de ténèbres, comme l'appelle l'apôtre Jean. Ce monde a besoin donc de tout le bien que la lumière de Dieu puisse apporter. Et il nous dit, c'est vous, la lumière du monde. C'est lorsque je brille en vous, sur vous, que ce reflet va pouvoir permettre à la lumière de toucher ce monde. Permettre donc aux gens de trouver leur chemin, d'éviter les pièges et de venir jusqu'au Père. En même temps, la lumière de Dieu reflétée à travers nous n'est nullement une garantie de succès. Même si on reflète la lumière pure de Dieu, tout le monde ne voudrait pas suivre ce chemin qui mène jusqu'à Dieu. Parfois, la lumière reflétée peut être aussi désagréable, dérangeante. Peut-être que vous avez déjà fait l'expérience derrière le volant, surtout en hiver, d'avoir le soleil très bas, donc dans les yeux, en haut, et puis avec la glace ou la neige fondue sur la route, d'avoir le reflet de la lumière qui revient encore d'en bas, et on sait à peine savoir où regarder parce qu'il y a le soleil qui vient d'en haut, il y a la réflexion qui vient d'en bas, et c'est gênant. Il y aura des gens pour qui la lumière de Dieu reflétée va être gênant au point de vouloir se cacher les yeux, ne pas voir. Dieu nous dit que c'est une réalité que nous devons accepter, mais cela n'enlève en rien son rôle que Dieu nous donne d'être source de lumière dans le sens où nous sommes la réflexion de sa lumière. Donc il nous dit, vous êtes le sel de la terre, avec tout le bien que le sel peut apporter, surtout dans un monde froid, dans un monde glacial. Vous êtes la lumière du monde dont nous avons tellement besoin dans un monde de ténèbres. Donc on aurait pu ce soir se satisfaire avec la lecture des versets 13 jusqu'à 16. Vous êtes le sel de la terre. Et puis, donc jusqu'à la fin de ses propos sur le fait d'être la lumière du monde. Mais en même temps, ces versets 13 à 16 ont aussi un contexte, viennent forcément à la suite des versets 1 à 12. Et il y a même un lien entre les versets 1 à 12 et puis les versets 13 à 16 qui nous parlent d'être sel et lumière. Autant donc que les versets 13 à 16 nous parlent de la nature et des effets du sel, et de la nature et les effets de la lumière, il est important de placer ça dans le contexte de la nature et des effets de l'enseignement de Jésus. Parce que le passage précédent, donc les versets 1 à 12, qu'on appelle souvent les béatitudes, puisque donc ça vient du latin pour cette répétition dans les versets 3 jusqu'à 11, « Heureux un tel, heureux êtes-vous si vous êtes ainsi ?» Ces béatitudes décrivent le caractère des citoyens du royaume de Dieu. Jésus est en train de dire à ses disciples, « Si vous entrez dans mon royaume, voilà ce que je vous propose. Voilà à quoi ressemblera la vie dans mon royaume. Voilà le caractère de base d'un citoyen de mon royaume. Pauvre en esprit, affligé, homme de paix, ayant faim et soif de la justice, miséricordieux, ayant le cœur pur, procurant la paix et persécuté pour la justice. » Mais il inverse la logique en disant ces choses-là que normalement le monde considérerait comme des désavantages, comme des malédictions, moi je vous dis que ces choses pour vous sont des bénédictions, dans mon royaume sont des bénédictions, puisque le moyen de recevoir le royaume des cieux, d'être consolé, d'hériter la terre, d'être rassasié, d'obtenir miséricorde, de voir Dieu, d'être élevé au même statut que les prophètes, et donc recevoir une récompense. Ces béatitudes décrivent donc le caractère fondamental d'un citoyen du royaume de Dieu, et puis, à partir du verset 13, donc Jésus parle des effets ou du rôle de ceux qui ont ce caractère. Il nous dit « Voici le caractère que je désire développer en vous, et maintenant, voici ce que ce caractère fera dans le monde. Quel sera l'effet de ce caractère dans le monde ?» Mais ce qui est intéressant dans les versets 13 à 16, c'est qu'après avoir dit cela, il ne se concentre pas tellement sur les effets. Il ne va pas jusqu'à expliquer tout ce que le sel peut faire. Il ne commence pas tout un discours sur la conservation du sel. Il a peut-être laissé ça au prédicateur qui allait venir plus tard. Ou peut-être il trouvait que c'était trop évident, que tout le monde comprendrait d'office ce que le sel pouvait faire. Jésus, au contraire, souligne un autre aspect dans son enseignement. Lui, effectivement, il parle de la conservation, mais non pas de la conservation de la nourriture lorsqu'on met le sel dessus, mais la conservation de ce caractère qu'il a décrit dans les 12 premiers versets. Il souligne l'importance de conserver ce caractère tout au long de notre vie chrétienne. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc il dit, voici les caractères, les caractéristiques de quelqu'un qui est le sel de la terre. Mais il est important que le sel garde sa saveur, que ce qui vous distingue du monde reste en vous, soit conservé en vous, parce que si vous perdez votre saveur, ben le sel ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et verset 15, ou fin du verset 14, « Une ville située sur une montagne ne peut être caché et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Il est important qu'une lampe continue à être source de lumière. Donc il dit, avec ce caractère que je développe en vous, vous êtes la lumière du monde. Mais le but n'est pas après de cacher cette lumière. Si je mets ma lumière en vous, c'est pour que cette lumière continue à briller, soit même mis sur, sur le chandelier pour que tout le monde voit cette lumière. Jésus donc souligne l'importance de garder ces caractéristiques fondamentales qu'il a soulignées dans les versets précédents. Il dit, ce n'est pas juste le moyen d'entrer dans mon royaume et puis après, avec le temps, vous redevenez comme le monde de ténèbres, le monde hivernal dans lequel vous vivez. Pour que le sel continue à agir, il faut qu'il conserve sa nature propre. Sinon, essayez de jeter juste de la poussière sur le gel, et vous allez voir que ça n'a pas énormément d'effet. Peut-être ça améliorera le fait de marcher dessus, mais ça ne va pas faire fondre le gel. Alors que quand on jette le sel dessus qui a gardé sa nature, tout de suite on voit l'effet, on entend le gel qui commence à craqueler, on entend et on voit les effets. C'est caché de la lumière, n'apporte plus non plus les effets que la lumière puisse apporter dans notre vie. Jésus disait, c'est pas la peine d'allumer une lampe, d'avoir une source de lumière et puis de le cacher, de mettre un panier par-dessus pour qu'il n'illumine plus la maison dans laquelle on vit. Il y a quelques années, lorsque, après avoir eu un hiver, je crois deux fois de suite, la grippe, Véro est allé voir le médecin qui disait, en fait, mon meilleur conseil, ce qu'il faudrait, c'est aller chercher du soleil. Donc, Véro dit, dans quelques semaines, justement, on va partir en vacances en Normandie. Il a dit, c'est pas vraiment ça que j'avais en tête, je pensais plutôt à l'Égypte ou quelque part par là. Parce qu'il disait, notre corps a besoin de la lumière, mais le problème, lorsqu'on reste suffisamment au nord, c'est que même quand il fait beau, même quand il y a du soleil, on est obligé de se couvrir à tel point que la lumière n'arrive pas à pénétrer, à nous faire du bien. On se cache finalement de la lumière, on empêche la lumière de pénétrer. Jésus disait, la lumière ne prendra effet que s'il arrive à briller et à nous toucher. Donc on ne met pas la lumière, on ne cache pas la lumière, on ne se cache pas de cette lumière, mais il faut que cette lumière puisse briller, allumer tout autour, si on veut que ça ait ses effets. Et donc, il dit, il est important que le sel reste sel, que la lumière reste lumière et brille. Donc Jésus finalement souligne à quel point il est important que nous restions différents du monde pour pouvoir accomplir le rôle qu'il nous a confié. Si le sel devient comme le gel, il ne va plus faire fondre le gel. Si la lumière n'est plus vraiment lumière mais est ténébreuse, ça n'apportera aucune lumière, aucune aide, aucune santé, ne fera fondre rien, ne nous aidera pas à voir où on va. Si on met quelque chose d'impénétrable autour de la lampe, ça ne nous servira à rien. Il est donc important, dit Jésus, de continuer de garder ces caractéristiques qu'il désire créer en nous. Il est important donc de se modeler sur lui, de le laisser lui façonner notre caractère. Il est important d'appliquer son enseignement, d'être ce que lui, il voudrait, de chercher le caractère que lui voudrait en nous, plutôt que de s'appeler chrétien, et puis de fonder notre vie sur les avis et les enseignements du monde dans lequel nous vivons, dans le but de ressembler au monde. Si on ressemble au monde tout en s'appelant chrétien, si nos valeurs sont les mêmes, si nos caractéristiques sont les mêmes, nous avons perdu notre saveur. Nous avons caché cette lumière que Dieu a mis en nous. Il dit, voici la réalité, le caractère de quelqu'un qui habite mon royaume. Gardez cette nature, gardez ce caractère. Restez ainsi pour ne pas perdre sa saveur, pour ne pas cacher sa lumière. Mais c'est vrai que finalement, si on ne fait pas attention, si on ne veille pas sur nous-mêmes, c'est facile de perdre sa saveur, de mettre une cache sur la lumière, de ressembler au monde. Merci beaucoup, Ben. Parce que non seulement le monde autour de nous cherche à imposer ce modèle, cherche à nous transformer à son image. Mais finalement, ce que le monde prône, ce que le monde encourage, c'est aussi ce qu'on trouve au fond de nous-mêmes. C'est aussi ce que nous trouvons dans notre propre nature. Ça reflète les désirs de notre nature humaine, nature propre. Comme disait le prophète Jérémie, le cœur humain est tortueux plus que tout. Et il est incurable. Qui peut le connaître? Et après, Dieu dit, c'est moi qui sonde le cœur. Mais le cœur humain est tortueux plus que tout et incurable. Donc, si on ne fait pas attention, il y a le monde extérieur, il y a le monde en nous qui se retrouve et qui cherche justement à enlever la saveur, la différence qu'apporte la nature du royaume de Dieu, qui cherche à mettre une cache sur la lumière. Pour ça qu'il est tellement important, quelle que soit notre étape, notre stade dans la vie chrétienne, quel que soit le nombre d'années que nous avons derrière nous avec le Seigneur, il est important de permettre toujours et encore au Saint-Esprit d'imposer son caractère sur le nôtre. Dans Galates chapitre 5, Paul nous donne un aperçu de ce que ça veut dire. Galates 5, à partir du verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Effectivement, tout à l'heure, on a pu citer Jésus qui disait « Celui que le Fils de Dieu libère sera réellement libre. » Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Pourquoi? Parce que comme disait Jérémie, le cœur humain, même le nôtre, est tortueux plus que tout, et il est incurable. Si on vit donc selon notre chair, il n'y aura plus de distinction entre nous et le monde dans lequel nous vivons. Et donc, nous n'aurons plus aucun effet, nous serons incapables de jouer le rôle que le Seigneur nous a confié. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Pour ça qu'il y a cette différence de nature entre le royaume de Dieu que Jésus définit dans les béatitudes et puis le monde dans lequel nous vivons et ce monde qui est en nous qui cherche à reprendre le dessus. La chair, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Le Seigneur, à travers Paul, donc, nous donne quelques indices. Donc, on peut être sûr que les désirs de ces choses-là ne viennent pas de Dieu, mais plutôt de notre chair, et donc sont plutôt à combattre pour garder la nature que Dieu désire développer en nous. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Opposition entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit, entre la nature de ce monde dans lequel nous vivons et la nature du royaume de Dieu, d'où Jésus qui dit qu'il faut garder sa saveur, qu'il faut maintenir cette lumière qui brille et qui ne soit pas cachée. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Et ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est d'ailleurs ce que nous proclamons par le baptême, cet ensevelissement, enterrement de la vie d'avant que nous disons a été crucifié avec Jésus-Christ, avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Travaillons, gardons, veillons à garder ces caractéristiques, cette nature que Dieu désire développer en nous pour pouvoir accomplir la mission de notre nature, pour pouvoir refléter la lumière du Seigneur, pour être ce que Dieu désire qu'on soit dans ce monde. En conclusion, quelques mots de Proverbes chapitre 4, à partir du verset 20, qui peut être justement un mot d'ordre, une carte à suivre pour accomplir ce que Jésus nous dit. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Puisque le cœur est tortueux plus que tout, il est incurable. Seul le Seigneur puisse nous transformer par son esprit en nous encourageant à marcher selon son esprit. Donc Jésus dit, vous êtes dans un monde glacial, vous êtes dans un monde hivernal, mais vous êtes le sel de la terre. Je vous ai placé dans ce monde comme sel et comme lumière. Mais pour accomplir ce rôle, il va falloir garder votre cœur pour que vous gardiez cette nature qui fait de vous le sel et la lumière d'un monde glacial, d'un monde de ténèbres. Donc, que nous puissions mettre les conseils du Seigneur en pratique et permettre à l'Esprit de nous travailler à travers sa parole pour que nous puissions être toujours sel et lumière dans ce monde de ténèbres où il nous a placés.